Imaginons un peu la scène. On est en 1955.
Ouais.
Et là, on découvre un protocole diplomatique top secret, soigneusement rédigé, qui stipule noir sur blanc que si le Maroc et la France se rencontrent un jour lors d'une Coupe du monde de football, eh ben, l'équipe marocaine a l'obligation formelle de perdre.
Enfin, c'est complètement absurde.
Ah mais c'est faux. Et pour faire bonne mesure, il y a même une ligne qui dit que la France s'engage, par courtoisie diplomatique à ne pas marquer plus de 2 buts. Franchement, c'est comme si on tombait sur un parchemin caché de la Révolution française qui, je sais pas moi, qui réglementerait les hors-jeux au football.
C'est ça. Et le pire, le truc vraiment dingue dans tout ça, c'est que ce document existe bel et bien en ce moment sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Il tourne à plein régime, hein, avec son petit papier jauni artificiellement, la typographie d'époque, et il est présenté très sérieusement comme un véritable avenant aux accords d'Aix-les-Bains.
Et c'est exactement ce qui rend notre plongée au cœur des sources du jour si fascinante. On explore aujourd'hui l'édition de juillet 2026 du magazine Logi Media, le numéro 136, très précisément.
Tout à fait.
Notre mission pour cette session, bah, c'est de naviguer dans ce véritable champ de mine informationnel pour comprendre comment les rapports de force mondiaux sont en train d'être totalement redessinés. On va passer de ces traités historiques réécrits aux mutations industrielles fulgurantes en Afrique du Nord, faire un détour par des trains japonais qui lévitent à 500 km/h, pour finir sur une crise de succession totalement invisible, mais extrêmement dangereuse au Moyen-Orient.
En fait, le fil rouge de toutes ces informations, de tous ces articles, c'est vraiment la bataille pour le contrôle.
Le contrôle, ouais.
Le contrôle du récit historique, le contrôle de la chaîne de valeur économique, et bien sûr le contrôle géopolitique brut, hein. Et si on commence par ce fameux document des années 50, cette fake news sportive, bah, si elle prend autant d'ampleur aujourd'hui, c'est pas du tout un hasard temporel, hein.
Non, c'est carrière.
Elle surfe sur une réalité diplomatique qui est très sérieuse, elle, et qui est en cours de négociation.
Bah oui, parce que les sources indiquent justement qu'un nouveau traité d'amitié, un vrai traité historique cette fois, est sur la table entre la France et le Maroc. Et l'objectif, c'est de remplacer officiellement l'accord de la Selle Saint-Cloud, qui avait été signé en novembre 1955 pour préparer la fin du protectorat.
Exactement.
Là, on parle vraiment d'un partenariat renouvelé, qui repose sur 4 piliers, hein, l'économie, la sécurité, la culture et la géostratégie.
Et voilà. C'est pour ça que l'année 1955 est ciblée par la désinformation en ce moment. C'est vraiment l'année charnière. Pendant que les diplomaties travaillent au millimètre pour purger un peu les derniers vestiges du postcolonialisme et acter une vraie relation d'égal à égal.
Avec des gros investissements croisés, hein, dans la défense ou les infrastructures.
Ouais, tout à fait. Et pendant ce temps-là, bah, des usines à fake news utilisent exactement cette même date pour brouiller les pistes. L'objectif d'une manipulation comme ça, même avec une clause sportive qui paraît farfelue, bah, c'est d'implanter l'idée d'une subordination éternelle. C'est de la guerre de la perception pure et dure.
Ok, décortiquons tout ça un instant. La perception, c'est une chose. Mais la réalité sur le terrain, c'est beaucoup plus bruyant, c'est fait de béton et d'acier, parce que les pages économiques de notre source, elles dressent un tableau de l'industrie marocaine qui est carrément sous stéroïde.
Oui, là, ça s'accélère très fort.
Le ministre Riyad Mezour, il multiplie les inaugurations à un rythme de fou. On parle de la plateforme Stellantis à Kenitra, du géant allemand Benteler pour les composants, de Trelleborg dans l'aérospatiale, du textile aussi avec Valyrus. Et le chiffre d'affaires de l'industrie automobile, il atteint 196 milliards de dirhams. C'est massif!
C'est énorme et la dynamique n'est plus à démontrer, hein. L'objectif qui est affiché, notamment pour Stellantis, c'est d'atteindre 75% d'intégration locale d'ici 2030, tout en absorbant d'ailleurs la production liée à la micromobilité.
Alors attends, mais je t'arrête là parce que faisons une petite pause là-dessus. Il y a un chiffre dans les sources qui me fait quand même tiquer.
Lequel?
Bah, l'enquête industrielle mentionne que 94% du capital de ce secteur automobile est étranger.
Ouais, c'est vrai.
Du coup, la question qui s'impose naturellement, est-ce qu'on est vraiment en train de construire une véritable souveraineté industrielle locale ou est-ce qu'on se contente de, je sais pas, de louer des terrains et une main-d'œuvre abordable à des géants internationaux qui, au final, vont rapatrier tous leurs profits?
C'est une excellente question et la nuance est cruciale ici. En fait, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la politique industrielle actuelle au Maroc. Quand on démarre une industrie quasiment ex nihilo, bah, on passe forcément par la phase de ce qu'on appelle l'atelier. On attire les capitaux étrangers pour qu'ils montent les usines.
Ah ok, la phase d'installation, quoi.
Voilà. Mais le vrai baromètre de la souveraineté, c'est la profondeur de la chaîne de valeur. Pour bien comprendre, imaginons la construction d'une voiture. Un fournisseur de rang 3, c'est l'entreprise locale qui va fournir, disons, le plastique brut.
D'accord.
Le rang 2, lui, il va mouler ce plastique pour en faire des boutons. Et le Graal, c'est le rang 1 qui va intégrer ces boutons, y ajouter de l'électronique complexe et livrer un tableau de bord qui est complètement fini et fonctionnel à Stellantis.
Donc, si je comprends bien, le pari, c'est que les petites et moyennes entreprises locales ne se contentent plus de fournir juste la matière première de base, mais qu'elles montent en compétences pour devenir ces fameux sous-traitants de rang 1.
C'est tout le défi de ces fameux 75% d'intégration locale, oui. Parce que tant que la conception, les logiciels, la propriété intellectuelle viennent de l'étranger, bah, l'indépendance reste un peu illusoire. Et c'est marrant parce que l'article fait un parallèle très astucieux avec le sport.
Ah oui, avec les propos de l'ancien sélectionneur Sabri Lamouchi.
Exactement. Il expliquait que de nombreux joueurs binationaux choisissaient maintenant de jouer pour le Maroc parce qu'ils adhéraient à un projet, tu vois, une infrastructure qui a vraiment pris de l'avance.
C'est l'attractivité comme arme stratégique, en fait.
C'est ça.
On séduit des talents sportifs exactement de la même manière qu'on séduit des géants de l'automobile. Mais, et c'est là que ça devient complexe, cette marche forcée vers la haute technologie, elle crée des étincelles avec la réalité quotidienne du pays.
Oui, il y a des frictions.
Carrément. Il y a deux paradoxes économiques ahurissants dans nos sources. Premièrement, le Maroc, qui est pourtant une grande puissance agricole exportatrice, se retrouve obligé d'importer un volume record d'oignons en urgence, et ça, juste pour éviter une flambée des prix sur ses propres marchés locaux.
Et ça, malheureusement, c'est le symptôme très classique des économies qui sont en pleine transition climatique. Le stress hydrique désorganise complètement la production des denrées de base, comme l'oignon, qui sont très gourmandes en eau.
Pendant que les cultures pour l'export continuent de tourner, c'est ça?
Exactement. Les cultures à haute valeur ajoutée, elles continuent. C'est un déséquilibre structurel et le pays tente de le pallier par des importations massives dans l'urgence.
C'est fou. Et le deuxième paradoxe, il se trouve au niveau de nos routes. Avec l'inflation mondiale, le prix des carburants explose. Donc, les auto-écoles marocaines demandent, assez naturellement d'ailleurs, à augmenter leurs tarifs pour pouvoir survivre.
Logique.
Et là, le ministre du Transport, Abdessamad Kayo, oppose un refus catégorique. Mais pourquoi est-ce que l'État empêche des entreprises privées d'ajuster leurs prix face à l'inflation? C'est le marché, non?
C'est le marché, oui, mais là on touche à la mécanique très spécifique des prix réglementés. Juridiquement, il faut savoir qu'une auto-école, ça ne fait pas du transport de marchandises. Ça dispense un service de formation qui est encadré par l'État pour garantir l'accès au permis de conduire au plus grand nombre.
Ah, donc c'est vu comme un service public, presque.
Voilà. Si le ministre cède et laisse flotter les prix librement, le permis de conduire devient un produit de luxe du jour au lendemain. Donc l'État utilise son pouvoir réglementaire pour créer une sorte de bouclier artificiel contre l'inflation importée. Même si, évidemment, ça met une pression énorme sur la rentabilité de ces toutes petites entreprises.
C'est vraiment un numéro d'équilibriste permanent.
Totalement.
Et pour piloter tout ça, d'un point de vue logistique et social, il faut des infrastructures qui soient extrêmement solides. D'ailleurs, les sources montrent un déploiement sécuritaire et technologique très poussé en ce moment. Si on prend les élections législatives qui sont prévues pour le 23 septembre 2026, l'État déploie carrément une plateforme électronique centralisée et une commission de suivi qui réunit l'intérieur et le ministère public.
La centralisation de la donnée, c'est devenu la nouvelle colonne vertébrale de l'État moderne. Et c'est super visible dans la capitale, à Rabat.
Oui, avec ce nouveau centre.
Ça, ils viennent d'inaugurer un centre de commandement 2.0 qui intègre plus de 1400 caméras urbaines. L'objectif qui est affiché, c'est de pouvoir croiser les flux de circulation, la sécurité civile et les interventions d'urgence, tous en temps réel.
Mais au fond, qu'est-ce que tout ça signifie vraiment pour le pays? Parce que cette volonté de contrôle, elle s'étend même à la météo maintenant. Hein
ouais.
Face aux catastrophes climatiques qui sont de plus en plus fréquentes, le pays installe 243 nouvelles stations automatiques. Le mécanisme est redoutablement concret. Ces stations analysent les données et elles envoient des SMS d'alerte directement aux habitants des zones inondables, jusqu'à 36 heures à l'avance. C'est vraiment de l'anticipation technologique de survie.
En fait, pour schématiser, c'est la mise à jour du hardware de la société. Son infrastructure matérielle, ses capteurs, ses caméras. Mais ce qui retient vraiment l'attention dans ce dossier, c'est la mise à jour du software, de la mentalité sociale.
Le logiciel de la société, ouais.
Voilà. Et l'exemple le plus fort de ça, c'est la vaste campagne nationale menée par la ministre Naïma Ibn Yahia sur l'inclusion des personnes en situation de handicap.
Oui, les sources s'attardent d'ailleurs beaucoup sur la fameuse loi cadre 97.13. Mais qu'est-ce que ce texte juridique change si concrètement dans la vie de tous les jours?
il opère un basculement philosophique qui est majeur. Jusqu'à présent, l'accessibilité relevait très souvent de la compassion. Un employeur ou un constructeur aménageait un espace par charité, entre guillemets. La loi cadre transforme ça en normes juridiques opposables.
Opposable, ça veut dire quoi en pratique ?
Ça veut dire que, mécaniquement, un bâtiment public ou même privé ne devrait tout simplement plus obtenir de permis de construire s'il n'intègre pas ces standards dès sa conception. On passe vraiment de la notion d'assistanat à une citoyenneté de plein droit. C'est un changement de logiciel extrêmement profond pour une société.
Et non plus seulement des territoires, mais de la valeur.
La valeur immatérielle, oui.
Et c'est là que notre exploration prend une dimension presque futuriste. Tenez-vous bien, le Japon vient de relancer le chantier de son train Maglev entre Tokyo et Nagoya. On parle d'un projet chiffré à 60 milliards d'euros.
Ah, le Maglev, pour Magnetic Levitation. C'est vraiment le joyau de la couronne technologique japonaise. Ils ont eu de très longs blocages liés aux nappes phréatiques dans la préfecture de Shizuoka, mais là, le projet redémarre enfin.
Et la technologie derrière ce train, elle est juste fascinante. On parle d'un engin qui lévite au-dessus des rails grâce à des électroaimants surpuissants.
C'est ça, il n'y a pas de roues.
Voilà, ça supprime tout contact physique et donc tout frottement. Et c'est ce qui lui permet d'atteindre cette vitesse délirante de 500 km/h. Ça relierait les deux mégalopoles en 40 minutes à peine. Mais par contre, il y a un truc, les sources précisent que près de 90% de ce trajet se fera sous terre, dans des tunnels. Pourquoi s'enterrer avec un engin pareil ?
Bah, c'est une pure contrainte qui est imposée par les lois de la physique. À 500 km/h, la force centrifuge est immense. Un train ne peut physiquement pas négocier des courbes sans dérailler ou au minimum sans rendre le voyage absolument insupportable pour les passagers.
Donc il faut aller tout droit.
Le tracé exige une rectitude absolue. Il ne faut pas s'amuser à contourner les montagnes, il faut les percer de part en part. C'est un effort d'ingénierie qui est colossal, mais le Japon est prêt à payer ses 60 milliards pour s'assurer que le standard mondial du transport du futur reste japonais et non chinois ou européen.
Donc, protéger son avancée technologique coûte 60 milliards. Mais protéger son image coûte parfois juste des passages devant les tribunaux commerciaux.
Eh oui.
C'est le cas de la marque française Lacoste, qui vient d'obtenir en justice la condamnation, alors à titre provisoire, du géant chinois de la fast fashion, Shein. Le motif ? La contrefaçon du célèbre crocodile. Du coup, Shein doit retirer ses produits et verser 110 000 euros de provisions.
Et ça nous amène directement à la définition moderne de la valeur. Le vêtement qui est produit par Shein, techniquement, il remplit exactement la même fonction physique qu'un polo Lacoste. Il couvre le corps.
C'est du tissu, quoi.
Voilà. Mais la valeur marchande, elle réside dans le symbole. Le crocodile y raconte une histoire. Il y a un prestige associé. Si Lacoste ne défend pas de manière très agressive son droit de propriété intellectuelle, bah le symbole se dilue et toute l'entreprise s'effondre avec.
Et la preuve ultime que la valeur est totalement dématérialisée aujourd'hui, c'est ce fameux bout de tissu bleu vendu aux enchères pour 4,9 millions de dollars.
Ah oui, le maillot.
Le maillot porté par le roi Pelé lors de la finale de la Coupe du Monde 1958. Un simple maillot en coton, usagé en plus, qui vaut littéralement le prix d'un bel immeuble.
C'est la rareté historique à l'état pur. Et si on relie tout ça, qu'on parle de propriété intellectuelle, de reliques sportives ou de brevets de lévitation magnétique, bah on voit que les nations et les entreprises barricadent ce qu'elles ont de plus précieux, l'innovation et l'héritage.
Malheureusement, barricader ses intérêts géostratégiques à l'échelle mondiale prend souvent des proportions beaucoup plus tragiques.
Oui.
Et avant d'entrer dans cette dernière partie de notre analyse, il est absolument indispensable de formuler un avertissement explicite pour notre auditoire.
C'est très important, oui.
Les événements qu'on va décortiquer maintenant concernent une escalade militaire et diplomatique majeure. Notre rôle ici n'est en aucun cas de prendre position ni de valider une quelconque ligne idéologique, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Nous nous en tenons rigoureusement aux faits, tels qu'ils sont rapportés dans les sources de juillet 2026, avec pour seul et unique but d'en comprendre les mécanismes et les conséquences globales.
C'est un préambule incontournable, ouais. Parce que les dynamiques qui sont décrites ici redessinent littéralement la carte des menaces mondiales.
Exactement. Les sources documentent une reprise massive des frappes américaines contre l'Iran, qui ont été ordonnées par Donald Trump. Le commandement central, le fameux CNCO, a frappé plus de 80 cibles dès le 7 juillet 2026, puis ils ont enchaîné d'autres salves dans la nuit du 11 au 12.
C'est une vraie offensive.
De batteries antiaériennes et d'infrastructures navales des gardiens de la Révolution. Et le déclencheur avancé par Washington, pour justifier ça, c'est une attaque contre un porte-container chypriote avec la disparition tragique d'un marin. Mais ce qui est vraiment crucial ici, c'est le lieu de l'incident, le détroit d'Ormuz.
Ah, le détroit d'Ormuz ! C'est pas un simple bras de mer, hein ? C'est vraiment l'artère jugulaire de l'économie mondiale. Il faut bien comprendre la mécanique de ce goulot d'étranglement. Il y a un quart de la consommation mondiale de pétrole qui passe par ce couloir marin.
C'est énorme. Donc, si cette zone devient impraticable à cause de frappes militaires ou de représailles navales, c'est l'ensemble de la chaîne logistique mondiale qui s'enraye.
Hein. Ah, exactement. Si le détroit est soudainement perçu comme une zone de guerre active, bah les primes d'assurance maritime pour les armateurs sont multipliées par 10, voire par 100 du jour au lendemain. Les navires refusent tout simplement de passer.
Trop de risques.
C'est ça. Et la conséquence immédiate, c'est une raréfaction de l'offre sur les marchés mondiaux, une flambée des prix du baril de pétrole et une onde de choc inflationniste qui va frapper toutes les économies, qu'elles soient occidentales ou asiatiques, et ça en quelques semaines seulement. La réponse américaine est donc justifiée, de leur point de vue, par la nécessité absolue de garantir cette liberté de navigation pour maintenir la stabilité économique mondiale.
Sauf que ce qui ajoute une couche d'incertitude terrifiante à cette poudrière, c'est la situation politique interne en Iran.
Oui, c'est très flou.
Les sources de l'ODJ Media décrivent un vide visuel complet au sommet de l'État iranien. Le guide suprême, Ali Khamenei, a été tué fin février 2026. Son fils, Mojtaba Khamenei, a été désigné pour lui succéder. Sauf que, pendant les 6 jours de funérailles nationales à travers le pays, ce nouveau leader est resté totalement introuvable.
Aucune apparition.
Aucune image, aucun discours, aucune apparition publique. Le président iranien Massoud Pezeshkian s'est juste contenté de déclarer qu'il se remettait de ses blessures. Alors la question c'est, comment une nation fait-elle face à une offensive massive du CENTCOM avec un commandant en chef qui est un fantôme?
C'est le nœud du problème. Parce que dans un système politique qui est hautement centralisé et théocratique comme l'Iran, l'image du guide suprême, c'est la seule incarnation de la légitimité et de la stabilité de l'État.
Le symbole avant tout.
La présence physique, c'est le message. Donc son absence prolongée, surtout dans une période de deuil national et sous le feu des missiles ennemis, bah c'est un signal de vulnérabilité extrême. Ça laisse supposer au mieux une véritable incapacité physique et au pire, une violente guerre de factions en coulisses pour s'emparer du pouvoir.
Avec tous les risques que ça comporte.
Absolument. Cette incertitude, elle augmente le risque d'initiatives isolées ou de surenchères militaires de la part des différentes branches du pouvoir iranien, juste pour prouver leur détermination.
Bah écoute, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui, le panorama, il est vraiment étourdissant.
C'est le mot.
On a vu comment un pays d'Afrique du Nord tente de verrouiller sa souveraineté en construisant des chaînes de valeur automobiles de rang 1, en protégeant ses citoyens via des lois anti-inflation ou des SMS d'alerte météo, et en réécrivant son pacte d'inclusion sociale. On a vu aussi le Japon percer carrément des montagnes pour maintenir sa domination technologique, pendant que des multinationales utilisent les tribunaux pour défendre l'âme de leur marque. Et au-dessus de tout ça, bah, y a l'ombre d'une géopolitique hyper tendue, où un simple incident dans un détroit maritime menace de gripper toute l'économie mondiale.
Mais en fait, tous ces éléments racontent la même histoire.
Laquelle ?
Celle d'un monde qui est en quête de sécurisation face à la volatilité. Une sécurisation économique, technologique et militaire. Mais tu sais, je repense à notre tout premier sujet, notre point de départ, avec ce faux traité sportif de 1955.
Ah oui, la fameuse fake news.
Aujourd'hui, ça nous fait sourire. On le démonte assez facilement parce que le mensonge est vraiment trop gros. Mais croisons ça avec l'évolution de la technologie, de l'intelligence artificielle et des deepfakes.
Où veux-tu en venir ?
Bah, si une simple image vieillie sous Photoshop suffit à embraser les réseaux sociaux aujourd'hui, imaginons un peu la situation dans 50 ans. Comment les historiens du futur feront-ils le tri quand ils étudieront les véritables traités diplomatiques d'amitié signés par exemple en 2026 ? Bah, ils devront nager dans un océan d'archives numériques qui seront potentiellement toutes falsifiées.
Avec des fausses vidéos, des trucs comme ça, hein ?
Exactement. Des vidéos hyper réalistes de réunions diplomatiques qui n'ont jamais existé. Des signatures sur des traités imités à la perfection par l'IA. Finalement, la plus grande menace pour les rapports de force de demain, ce ne sera peut-être ni le blocage du détroit d'Ormuz, ni la fuite des capitaux, mais l'incapacité totale de distinguer ce qui a réellement eu lieu de ce qui a été artificiellement généré.
Un algorithme qu'il faudra sans cesse auditer. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment de curiosité avec nous. Quand on y réfléchit, derrière chaque usine, chaque train à grande vitesse ou chaque mouvement diplomatique, y a des mécanismes profonds qui ne demandent qu'à être décryptés. Il y a toujours plus à apprendre et on espère sincèrement que cette exploration aura rendu toute cette complexité un peu plus lisible pour notre auditoire. À très vite pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.